Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant mort et résurrection de Jésus-Christ. Est-ce la vérité ou est-ce un mythe? Nous arrivons à l'étude numéro 22. Et notre thème sera « Jésus prie pour ses disciples ». Chapitre 17, donc Saint Jean, chapitre 17, versets 6 à 19. Veuillez s'il vous plaît noter les indications bibliques nombreuses que j'essaye de vous donner toujours pour que vous puissiez bien comprendre que c'est uniquement la parole de Dieu que vous entendez et non pas une philosophie personnelle. Mais c'est quand même assez ardu, la Bible. C'est vrai, j'en sais quelque chose. Chers amis, cette longue partie centrale de la prière finale de Jésus s'ouvre sur un bref rappel de l'œuvre qu'il a déjà accomplie et qui s'achève, comme il vient de le faire remarquer au chapitre 17, verset 4. Mais nous pouvons examiner ces mêmes versets dans une perspective légèrement différente. Premièrement, nous avons un bref rappel de qui sont les disciples. Notez chapitre 17, versets 6 à 10. Avant de présenter ses requêtes en faveur de ses disciples, Jésus précise qui ils sont en soulignant quelques caractéristiques qui les situent dans le dessein rédempteur de Dieu. Ils ont compris la révélation du Père dans le Fils. Il est dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde ». Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient vraiment de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Chapitre 17, versets 6 à 8. Jésus n'est donc pas simplement venu comme exemple moral supérieur. Il est venu pour communiquer les paroles que Dieu lui a dites. Notez bien chapitre 17, verset 8, chapitre 7, verset 16 et chapitre 12, verset 48, toujours de l'évangile de Saint Jean. Il s'ensuit que, en accueillant les paroles de Jésus, les disciples ont reçu celles de Dieu dans leur subconscient. C'est précisément ce que Jésus voulait. Son but était de révéler le nom de Dieu à ceux qui lui étaient confiés et de faire connaître les attributs révélés et la nature essentielle de Dieu. Il est venu pour faire connaître Dieu, donc Jésus, ce que montre clairement le prologue au chapitre 1, verset 18, et les paroles qui précèdent immédiatement cette prière, notez chapitre 17, verset 1 à 5. Maintenant, est-il dit, maintenant, chapitre 17, verset 7. Maintenant, à la fin de son ministère, les disciples ont fini par reconnaître que tout ce que Jésus leur a donné vient du Père. Que tout ce que Jésus leur a donné vient du Père. Ils n'ont peut-être pas encore une grande compréhension ni une foi profonde, mais Jésus peut peux cependant témoigner qu'ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Chapitre 17, verset 8. Les disciples ont saisi la révélation essentielle du Père dans le Fils. Avant même que Jésus ne commence sa mission, les disciples appartenaient à Dieu qui les a donnés à son Fils. C'est un point sans cesse rappelé. Jésus déclare avoir révélé le Père aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Et il ajoute, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Chapitre 17, verset 6. Les disciples appartenaient à Dieu dès le commencement, car Dieu connaît notre parcours ici-bas beaucoup mieux que nous-mêmes. L'Évangile selon saint Jean insiste souvent sur cette vérité-là. Notez chapitre 17, verset 2, chapitre 6, verset 37, chapitre 44, verset... Chapitre 17, verset 2, chapitre 6, verset 37, verset 44 et verset 65. Excusez-moi. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris. Je répète, chapitre 17, verset 2, chapitre 6, verset 37, verset 44 et 65. C'est un antidote efficace contre l'arrogance humaine qui a tant de mal à accepter le fait de la souveraineté illimitée de Dieu. Les chrétiens considèrent souvent Christ comme un don que Dieu leur a fait. Ils se considèrent rarement comme le don que Dieu a fait à Christ. Ces deux dons ne sont pas parallèles. En nous donnant Jésus, Dieu vise le bien des destinataires et la gloire du donneur. En nous donnant à Jésus, Dieu vise le bien du don, tout comme l'adoption d'un enfant dans une famille poursuit avant tout le bien de l'enfant et la gloire du destinataire. Nous ne faisons donc rien pour mériter le don que Dieu nous accorde en Jésus, et Jésus a tout payé, vraiment tout payé, pour obtenir que Dieu nous donne à lui. Parce que Dieu est Dieu, il a le droit et le pouvoir de présenter à son Fils le don de certains individus, et savoir qu'il a agi ainsi, ceci est un puissant stimulant pour l'évangélisation. Ayons donc l'assurance que si le Père a un peuple nombreux, notez Actes chapitre 18 verset 10, même si ces gens ne sont pas encore venus à la vérité, ils ne peuvent que la découvrir. Sinon, la déclaration biblique n'aurait aucun sens. Les disciples ont donc gardé la parole de Jésus. Alléluia. Chapitre 17, verset 6. Ne pensons pas que les disciples sont de simples robots ou des marionnettes. Ils croient, ils entendent, ils obéissent. La foi est bien la leur. Et leur écoute aussi, de même que leur obéissance. Il n'est donc pas facile de concilier la souveraineté absolue de Dieu, même dans le salut, avec la liberté de l'homme comme agent libre dans l'univers de Dieu. Pourtant, ces deux aspects coexistent selon les Saintes Écritures. En parlant de ces vérités, il est essentiel d'éviter les formulations par lesquelles l'activité de Dieu et celle de l'homme se limitent mutuellement dans leur action. L'Écriture sainte évite ce piège. Parmi les nombreux exemples, l'un des plus frappants c'est la déclaration de l'apôtre Paul aux Philippiens, où il dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Chapitre 2, versets 12 et 13. Correctement comprise, la souveraineté de Dieu dans ce domaine sert davantage d'aiguillon que de frein à l'obéissance et à la croissance. La plupart des versets de l'évangile de Saint Jean, chapitre 17, situent Jésus et ses disciples juste devant l'événement de la croix, sans aucun signe d'anachronisme, mais au contraire, avec beaucoup d'indices historiques crédibles. La prière fait constamment état du départ imminent de Jésus, dévoile donc les doutes, dévoile la crainte et le danger de défection. Ça arrive, des défections des disciples. Aucune de ces caractéristiques, à l'exception de la dernière, ne s'applique à l'Église dans les premières décennies qui ont suivi la Pentecôte. Insérez ici une description de l'Église à un moment plus tardif de son histoire serait donc la preuve d'une grande incompréhension littéraire. Le deuxième facteur, beaucoup plus important, c'est le suivant. L'examen attentif à la proposition qui dit « Ils ont gardé ta parole » ne révèle pas l'anachronisme et ne constitue pas une description inexacte des disciples en cette dernière et sombre nuit. Dans l'Évangile selon saint Jean, l'expression « garder les paroles » au pluriel de Jésus ou de Dieu suggère l'obéissance à tous les préceptes, à tous les enseignements et à tous les commandements divins, tandis que l'expression « garder la parole » au singulier, cela signifie que les disciples ont accepté en général l'évangile proclamé par Jésus sans autre précision. La foi et l'obéissance des disciples manquent encore étonnamment de maturité, comme le prouvent clairement les propos échangés à la fin du chapitre précédent, tout particulièrement au chapitre 16, verset 31. Même là, cependant, les disciples font preuve d'une foi réelle, bien que un peu, on peut dire un peu superficielle. Après tout, d'autres ont depuis très longtemps abandonné Jésus. Notez Saint Jean, chapitre 6, verset 61 à 66. Sans compter Judas Iscariote, l'un des apôtres, il a finalement et définitivement quitté le groupe pour trahir le maître. Ceux qui sont donc restés avec Jésus en cette nuit mémorable croient tout au moins que Jésus est sorti vraiment de Dieu. Chapitre 16, verset 30. C'est essentiellement à cette attitude que se rapportent les mots « Ils ont gardé ta parole », chapitre 17, verset 6. La foi et l'obéissance de ses disciples, quoique encore faibles, chancelantes et immatures, sont cependant absolument réelles. Elles sont fidèles à sa parole. Jésus n'écrase pas le roseau froissé, et il n'éteint pas le lumineau qui fume. Il faut donc établir une distinction entre les disciples et le monde. Certes, autrefois, il est vrai, ils étaient du monde, mais Jésus les a choisis du milieu du monde. Chapitre 15, verset 19. Ou pour le dire autrement, Dieu les lui a donnés du milieu du monde, chapitre 17, verset 6. Pour empêcher toute confusion possible, Eh bien, Jésus dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Chapitre 17, versets 9 et 10. Je répète, Jésus dit, c'est pour eux, pour mes disciples, pour ceux qui m'appartiennent, même ceux qui sont pas, ceux qui sont nommés, je prie pour eux. C'est pour eux que je prie. Je prie pour ceux que, Père, que tu m'as donné, mon papa, parce qu'ils sont à toi, Père. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Chapitre 17, versets 9 et 10. Donc, en abordant l'étude de ce passage, il faut éviter deux erreurs. La première est de penser que Jésus ne se soucie absolument pas du monde, puisqu'il prie exclusivement, paraît-il, uniquement pour ses disciples. Mais cette pensée est mise à mal un peu plus loin dans ce chapitre, où nous découvrons que Jésus prie pour tous ses disciples, afin que par leur témoignage, le monde puisse croire que toi, mon Père, tu m'as envoyé. Chapitre 17, verset 21 et chapitre 17, verset 18 et 23. Jésus a donc un profond intérêt pour le monde. Sinon, il ne prierait pas que ses disciples rendent un témoignage approprié à ce monde. La deuxième erreur serait de croire que Jésus ne prie pas pour ses disciples d'une façon tout à fait exclusive. Très candidement, il déclare « C'est pour eux vraiment que je prie ». Jésus ne pouvait évidemment pas prier pour le monde comme il priait pour ses disciples. Évidemment, il ne pouvait pas prier que le monde soit un, ça c'est impossible, ou qu'il soit préservé du mal, car dans le langage de Saint Jean, le monde est ce qui s'oppose à Dieu. C'est vrai, le monde, c'est vraiment ce qui s'oppose à Dieu le Père. La seule chose que Jésus pourrait demander en rapport au monde serait justement que celui-ci cesse d'être le monde. D'ailleurs, un peu plus loin, Jésus priera pour ceux qui, bien qu'étant encore dans le monde, croiront et cesseront par là même, d'être du monde pour finalement s'associer aux disciples. Un lien particulier unit donc Jésus à ses disciples. Il prie donc spécialement pour eux, précisément parce qu'ils appartiennent à Dieu le Père. Chapitre 17, verset 9. Jésus prie donc pour eux par intérêt et par amour de ce qui lui appartient, assuré en même temps que sa prière en leur faveur doit être exaucée, puisque les disciples appartiennent aussi à celui auquel s'adresse sa prière. Ces paroles constituent évidemment aussi une affirmation christologique implicite d'une immense portée. N'importe quel mortel peut le prier. Tout ce qui est à moi est à toi. N'importe qui peut dire ça. Je répète, n'importe qui peut dire, je pense, tout ce qui est à moi est à toi. Mais personne ne peut dire tout ce qui est à toi, Père, mon Dieu, est à moi. Évidemment, non. Dieu veuille que la vérité de ces versets se grave en lettres de feu dans notre mémoire. C'est un privilège rare et sacré que de voir le Fils de Dieu non seulement formuler ses prières, mais aussi indiquer les raisons qu'il a de les formuler. Ces raisons reflètent l'unité essentielle entre le Père et le Fils et révèlent que les prières de Jésus pour les siens s'enracinent dans les desseins insondables de la divinité. Quand le Fils de Dieu lui-même présente pour ses disciples des prières comme celle-ci, et quand ces prières s'appuient sur le fondement de celle-ci, alors il est terrible de voir qu'à nos moments de faiblesse et de doute, eh bien nous mettons en doute l'amour de Dieu pour son peuple. Ce passage devrait plutôt faire naître la foi la plus profonde et la plus stable, ainsi qu'une reconnaissance empreinte d'adoration. Les disciples de Jésus sont donc aimés d'un amour spécial. Les disciples servent donc à glorifier Jésus, qui déclare explicitement « Je suis glorifié en eux ». Chapitre 17, verset 10. Comme dans la phrase, quand il dit « Père, l'heure est venue », verset 1. Certes, il a déjà été glorifié par le degré d'obéissance et de confiance des disciples à son égard, mais la venue de l'heure annonce de nouveaux triomphes. Les chrétiens glorifient Jésus-Christ par leur confession, par leur obéissance, une obéissance joyeuse, et par leur foi croissante, ainsi que leur désir véritable de servir le Seigneur et leur acceptation d'eux, même s'il s'est demandé de souffrir pour le Christ. Jésus résume ainsi brièvement qui sont ses disciples avant de présenter ses requêtes en leur faveur à son Père céleste. Deuxièmement, Jésus demande la protection de ses disciples. Notez chapitre 17, versets 11, 12, 14 et 15. J'ai dit Saint Jean chapitre 17, versets 11, 12, 14 et 15. Deux points retiennent donc notre attention. Premièrement, Jésus prie Dieu de protéger les disciples de la désunion. Je ne suis plus dans ce monde et ils sont dans le monde, dit-il, avant d'évoquer la mort et la résurrection. Dans ces termes familiers, il dit « Et je vais à toi, Père Saint, donc garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Chapitre 17, verset 11. Jésus prie que ses disciples soient un. Dans le grec original, cela signifie clairement non pas qu'ils deviennent un, mais simplement qu'ils soient un. L'idée n'est plus qu'il leur faut progressivement parvenir à l'unité, mais l'idée est simplement qu'ils soient continuellement une unité. Pour bien comprendre cette requête, il faut noter que Jésus ne réclame pas simplement l'unité entre ses disciples, mais qu'il demande à son Père de leur accorder une protection efficace pour qu'ils soient unis. Il faut donc supposer que diverses forces obscures, je les appellerai les démons, cherchent à briser cette unité, et seule la puissance du Saint Nom du Père, autrement dit la révélation de sa nature, assurera une protection efficace. Pendant qu'il s'inquiétait de sa mission terrestre, Jésus gardait ses disciples en sécurité en ce nom qui lui avait été donné. Lorsque j'étais avec eux, dit-il, je les gardais en ton nom. Chapitre 17, verset 12. Excusez-moi. Mais maintenant, il est sur le point de les quitter, il demande au Père d'assumer cette responsabilité. Si quelqu'un rétorque qu'un des 12 s'est égaré, ce qui est vrai, et suggérant ainsi que le pouvoir protecteur de Jésus avait donc certaines lacunes, le Seigneur a la réponse. Grâce à sa protection, aucun ne s'est perdu, déclare-t-il, sinon le fils de perdition. Et pourquoi ? Afin que l'Écriture sainte soit accomplie. Notez le verset 12. Il s'ensuit que la volonté du Père, à savoir que le Fils garde tous ceux qui lui avaient été donnés, chapitre 6, verset 38, s'est parfaitement réalisé, et en elle, Judas n'apparaît pas comme étant une véritable exception, mais comme étant celui qui, par sa trahison et par sa méchanceté délibérée, a accompli l'Écriture, restant ainsi dans la volonté divine, même si cela peut paraître incompréhensible. Le but constant est que les disciples soient un comme Jésus et son Père sont un. Mais comme toute analogie, celle-ci ne doit pas être poussée trop loin. L'unité entre Jésus et son Père a des caractéristiques qui ne peuvent pas se retrouver dans l'unité entre les disciples. Ainsi, Jésus et son Père sont bel et bien deux personnes, tandis que les disciples sont très, très nombreux. Jésus et son Père sont donc unis dans l'œuvre de la création. Notez chapitre 1, verset 1 à 3. Ce qui ne peut être dit des disciples. Donc Jésus et son Père jouissent de l'éclat d'une gloire dès avant déjà la création du temps. Notez chapitre 17, verset 5. Des créatures temporelles ne peuvent évidemment pas partager une unité de cette nature. Le quatrième évangile, lui seul, souligne de nombreuses autres distinctions qui sont possibles. Il n'empêche que l'analogie est importante et ne doit pas être vidée de son contenu. L'évangile, selon saint Jean, décrit de nombreux liens relationnels entre Jésus et son Père, qui sont de nature fonctionnelle. Si Jésus est du côté de son Père en ce qui concerne la révélation et l'autorité, il est du côté de l'homme quant à la dépendance et à l'obéissance. Dans ce cadre-là, il existe entre le Père et le Fils une parfaite unité d'amour, de but, de sainteté, et de vérité. Jésus prie donc en substance, « Garde ceux que tu m'as donnés pour qu'ils soient un comme nous sommes un dans l'amour, un dans la sainteté. » Ce n'est pas pour rien que Jésus s'adresse à son Père en disant « Père Saint » et lui demandera peu après de sanctifier tous les croyants, un dans la vérité, contrairement au monde. Ils ont fini par reconnaître la vérité fondamentale que Jésus est vraiment la révélation de Dieu le Père. Le souci de l'unité est un thème important dans la prière de Jésus. Il le mentionne souvent. Notez chapitre 17, verset 21, verset 22 et 23. Retenons pour l'instant que si la prière de Jésus vise la protection des disciples afin qu'ils soient unis dans l'amour, les objectifs, la sainteté et la vérité, les grands dangers qui les menacent sont donc ceux qui détruisent l'unité dans l'amour, les objectifs, la sainteté et la vérité, ceux qui désunissent tout cela. Le catalogue de ces dangers et leur mise en lumière détaillée et on peut dire, et doublerait, on peut bien dire cela doublerait le volume de notre étude, car il faudrait évoquer des choses comme la jalousie, la haine, les frictions, l'individualisme arrogant, l'égoïsme, l'amertume, le refus de pardonner, la langue de vipère. Tous ces vices portent atteinte à l'unité de l'amour. Le catalogue comprendrait aussi l'esprit franc-tireur, le manque de coopération, l'esprit casse-cou et l'impatience qui vont tous à l'encontre de l'unité d'objectif. Toutes sortes de péchés, oui, tous sont en horreur à la sainteté, et les mensonges, les demi-vérités dogmatiques, le refus de reconnaître ses erreurs, le refus d'apprendre d'autrui, le scepticisme chronique, les attitudes qui nuisent à l'unité dans la vérité. Oui, Seigneur, délivre-nous, délivre-moi de tous ces maux-là. Si Jésus jugeait utile de prier pour que ses disciples vivent cette sorte d'unité, combien plus nous devrions prier, chers amis, pour la connaître nous-mêmes? Voici, oh, qu'elle est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Il envoie la vie pour l'éternité. Notez le psaume, chapitre 133, versets 1 et 3. Voilà donc ce que écrit le psalmiste, et la plupart des croyants peuvent attester à leur tour qu'une telle unité s'accompagne de puissance et de joie sainte. Deuxièmement, Jésus prie pour que ses disciples soient gardés du malin. Je leur ai donné ta parole et le monde les haït parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Jean chapitre 17, versets 14 à 16. Le malin agit apparemment très souvent par la haine. Les disciples vont avoir besoin d'une protection efficace contre cette méchanceté-là. Eux vont rester dans le monde, hélas, une fois que Jésus est parti. Mais parce qu'ils ont été choisis du milieu du monde et sont nés par l'action secrète de l'Esprit-Saint, notez Saint Jean chapitre 3, ils n'appartiennent plus au monde. C'est d'ailleurs pourquoi le monde et le malin les haït naturellement. Chapitre 15, verset 18. Mais en face de ce mal, les chrétiens ne doivent pas chercher uniquement à fuir le monde par la mort, par le suicide ou par une vie d'ermite. Ça, c'est encore autre chose. Se cacher dans une grotte ou dans un couvent. Dans sa prière, Jésus indique clairement que ses disciples ne doivent pas être soustraits au conflit. D'ailleurs, à la lumière du chapitre 16, versets 1 à 4, il ne demande pas non plus qu'ils soient mis à l'abri des peines et des souffrances qui pourraient découler de la haine implacable du monde. Mais Jésus prie plutôt qu'ils soient préservés du malin, même lorsqu'ils font face à l'opposition du monde. La persécution, ça c'est une chose. La persécution sans moyen de défense contre les assauts que le malin peut livrer à l'âme et à notre esprit, ça c'est encore toute autre chose. Alors Jésus prie, il prie pour la protection contre cette dernière chose, c'est-à-dire contre la persécution, contre les moyens de l'assaut du malin, que le malin, avec tous les démons, livre à notre âme et à notre esprit. Ça existe. Et là aussi, j'en sais quelque chose. Mais vous aussi, certainement. De nombreuses années plus tard, l'apôtre Jean se souvient. Il se souvient de la prière du Maître et en observant ceux qui l'entourent, atteste que les jeunes gens de son temps continuent de vaincre le malin. Premier épître de Saint Jean, chapitre 2, versets 13 et 14. Du reste, l'apôtre Jean va même jusqu'à dire que le malin ne peut toucher celui qui est vraiment, vraiment né de Dieu. Je répète, le malin et tous les démons ne peuvent vraiment pas toucher ceux qui sont vraiment nés de Dieu. Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 18. Évidemment, les esprits malins, mauvais, peuvent nous tourmenter, mais peuvent pas nous vaincre, jamais. Les dimensions spirituelles de cette prière de Jésus sont logiques et inouïes. Quant à nous, nous passons plus de temps à prier pour notre santé, il est vrai, pour nos projets, pour nos décisions, pour nos finances, pour notre famille et même pour nos loisirs, que nous n'en consacrons à prier pour être protégés du malin et de tous ceux qui l'accompagnent. Je répète, que nous ne consacrons à prier pour être protégés du malin et de tout cette horde qui accompagne le malin, tous les esprits mauvais. Nous devons donc consacrer des prières pour nous protéger, pour être protégés et nous mettre sous le sang de Jésus-Christ. Profondément matérialistes, nous discernons très peu le combat spirituel dont l'apôtre Paul, par exemple, avait pleinement conscience. Notez Éphésiens chapitre 6, verset 10. Le Notre Père nous rappelle aussi la nécessité de prier « Délivre-nous du malin ». L'Église n'engendrera certainement pas beaucoup de géants spirituels si elle ne parvient pas à discerner son principal ennemi. Résumons. Jésus prie pour la protection de ses disciples. une protection contre la désunion, rappelez-vous, qui est causée dans la plupart des cas par leurs péchés, par nos péchés, et une protection contre le diable lui-même, l'agent extérieur de certaines tentations et de l'opposition. Troisièmement, un autre objectif de la prière de Jésus est la suivante. Il est dit « Et maintenant, je vais à toi », c'est ce que déclare Jésus, en utilisant le présent pour indiquer un futur quasiment accompli. Et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Chapitre 17, verset 13. Il ne fait pas de doute que pour nous, la prière privée, seule, à seule, avec Dieu, doit et devrait compter davantage que la prière publique. Notez Saint Matthieu, chapitre 6, versets 5 et 6. Mais les Saintes Écritures accordent cependant aussi une certaine place à la prière publique et communautaire. À de tels moments, il faut que celui qui prie, bien que s'adressant à Dieu le Père, se souvienne qu'il est entendu de tous ceux qui écoutent. Une meilleure préparation, une réflexion plus approfondie avant les réunions de prière et autres réunions où la prière publique est justifiée ne peuvent que améliorer les aspects de cette prière. Quand les chrétiens se rassemblent pour prier ensemble, il ne devrait pas y avoir de place pour un narcissisme spirituel, ni pour une énumération interminable de sujets purement privés, et encore moins pour des murmures quasi inaudibles. Et quatrièmement, Jésus prie pour la sanctification de ses disciples. « Sanctifie-les, dit-il, par ta vérité, par ta parole, car ta parole est la vérité. » Chapitre 17, verset 17. Être sanctifié, c'est être mis à part pour Dieu et son projet. Jésus demande donc à Dieu de mettre à part les croyants pour son propre usage. La parole de Dieu, la vérité, est l'agent qui opère cette sanctification. D'après le contexte, il ne s'agit pas uniquement de la sanctification personnelle, aussi importante qu'elle soit. Le verset suivant indique très clairement la raison pour laquelle Dieu met à part ses premiers disciples. Il dit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, Père, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Verset 18. Jésus a dû, lui aussi, se mettre à part pour sa mission, à savoir sa venue dans le monde. Il a dû se mettre à part pour accomplir la volonté de son Père. Bref, il a dû se sanctifier lui-même et cette mission arrive à son terme, à son apogée, uniquement à la croix et par la croix. Jésus s'engage donc tout à nouveau à faire la volonté de son Père. Il reconnaît toutefois que sa sanctification pour accomplir la volonté du Père en allant vers la croix, c'est quelque peu, on peut dire quelque peu différente de celle de ses disciples. Oui, les siennes ne constituent pas un progrès ne constitue pas un pas en avant qui les rendrait un peu plus saints. Elle est plutôt le fondement de leur sanctification. Il dit Jésus, je me sanctifie moi-même pour eux, dit-il, afin que eux soient aussi sanctifiés par la vérité. Verset 19. Donc, chers amis, leur sanctification, elle vise leur rôle de témoin dans le monde. Ils ont maintenant un rôle de témoin dans le monde. Et si Jésus pense avant tout aux apôtres, à la lumière du verset 20, eh bien sa prière englobe tous les croyants, dans la mesure où Jésus prie pour tous, qu'ils aient un impact sur le monde. Chapitre 17, versets 21 à 23. Il apparaît donc très clairement que Jésus se met lui-même à part pour accomplir son œuvre de rédemption sur la croix, afin que les bénéficiaires de cette œuvre puissent à leur tour se consacrer pour l'œuvre de la mission. Après la résurrection, Jésus leur rappellera que la sanctification qu'il a demandée pour eux ne visait pas simplement l'aspect personnel de piété, bien loin de là. Comme le Père m'a envoyé, dit-il, eh bien moi aussi, je vous envoie, chapitre 20, verset 21. Précisons encore, pour terminer, une fois sans hésiter, que cette prière ne reflète aucune note maussade ou triste, comme les avertissements précédents à propos de la persécution, chapitre 15, verset 17, et chapitre 16, verset 4. Le but n'est donc pas de plonger les disciples dans la langueur, mais de susciter en eux un dynamisme, un zèle mêlé d'une foi triomphante. Si la prière de Jésus pour notre sanctification englobe notre mission dans un monde qui nous haït, on peut dire qui nous aime vraiment pas trop, cette mission devient donc un sujet de réelle joie, simplement parce qu'elle exprime la volonté du Père. Comme pour Jésus, chapitre 15, verset 11, « Donc, notre joie, votre joie, chers amis, elle prend sa source dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Elle sème la volonté de Dieu. » Chers amis, avant de terminer par la prière, j'ai reçu du Saint-Esprit de vous transmettre quelque chose pour votre édification personnelle, mais aussi pour votre encouragement personnel. Écoutez bien. Nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons vivre pour te glorifier en tout. Jésus vous dit, bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Voilà donc le vrai rassasiement. Seul ce rassasiement spirituel peut satisfaire peut guérir et mettre au repos les désespérés, les défaillants et les lassés. Seigneur, à quel autre irions-nous que à toi ? Saint Jean chapitre 6, verset 68. Tu dresses la table devant nous. Psaume 23, verset 5. Tu es le pain de vie qui est descendu du ciel. Saint Jean chapitre 6, verset 35, verset 48 à 51. Bien peu nombreux encore sont ceux qui comprennent que le miracle des pains par lequel Jésus rassasia des foules de 4 et 5 000 personnes, cela n'est que la figure de ce qu'il a dû faire pour être à jamais la nourriture des âmes. Songez aux révélations merveilleuses qui attendent encore ceux qui pénétreront dans son intimité. Les siècles ont passé et son enseignement et ses miracles sont encore bien peu compris. Une grande partie de son ministère terrestre est comme un continent inexploré spirituellement parlant. Ces choses, en effet, ne peuvent être révélées que au cœur humble et véritablement aimant qui ne quitte jamais Jésus-Christ. Elles ont été soigneusement cachées aux sages et aux prudents pour être révélé aux petits-enfants. Ne vous croyez pas tenu de porter les péchés et les souffrances du monde. Pour le faire et vivre, il faut être le Christ. Attachez-vous plutôt à découvrir autour de vous ceux, tous ceux qui font preuve d'amour, de sincérité et de bonté et de courage. Maintenant, prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous t'avons prié de nous apprendre à sentir de plus en plus combien nous sommes en toutes choses obligés d'accomplir ta volonté. Mais nous devons te supplier encore de nous apprendre à l'aimer, ta volonté, et de nous la rendre vraiment chère et précieuse. Lorsque tu nous rends heureux, lorsque tu nous combles de faveur, que cette pensée, c'est la volonté de Dieu, cela nous rend plus heureux et encore et donne plus de prix à tes bienfaits. Lorsque tu nous éprouves par la maladie, par l'affliction, que cette même pensée adoucisse nos souffrances et ôte toute amertume à la douleur. Et lorsque tu nous appelles à quitter cette terre que nous te disions avec promptitude et confiance que ta volonté soit faite, ô Dieu, et non pas la nôtre, Seigneur, nous savons que tu ne veux pas la mort du pécheur, mais bien au contraire, ta volonté est qu'il te convertisse, qu'il se convertisse et qu'il puisse vivre. Et c'est en nous appuyant sur cette précieuse promesse, que nous implorons ta grâce et que nous te supplions de nous attirer de plus en plus aux pieds de Jésus-Christ, du Sauveur par lequel nous sommes réconciliés avec toi. Seigneur, prends pitié de notre faiblesse et daigne amener toutes nos pensées et toutes nos volontés captives à l'obéissance de la croix, que nous puissions dire du fond de nos cœurs avec ton divin Fils, j'ai pris plaisir à faire ta volonté, Il n'est pas un instant de notre vie où nous n'ayons ce devoir à remplir. Des anges puissants en force obéissent à la voix et à ta sainte parole. Que toute la terre se prosterne aussi devant toi, éternel notre roi et notre Dieu. Daigne nous faire passer ces jours dans la paix et dans la douce confiance de ta volonté et de ta pureté, puissance pour nous garder. Nous te remercions et nous te remettons tous ceux qui nous sont chers entre tes mains paternelles, afin que tu en disposes selon ta volonté et que ton Saint-Nom soit béni et soit glorifié à jamais. Amen. Amen. Et chers amis, j'aimerais maintenant vous mettre quelques chants d'un assez lointain passé, 1962. Évidemment, ces enregistrements sont plus d'un demi-siècle et le son ne peut plus être aussi parfait. Mais l'Esprit Saint se trouve dans ces gens. Que le Seigneur vous bénisse parce qu'il vous aime. Et c'est mon devoir de vous aimer également de tout mon cœur. Et maintenant, je vous enlace et je vous embrasse avec tout mon amour. Et je vous dis, soyez bénis. À bientôt, à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Et maintenant, quelques chants d'un très lointain passé.
Only one life 'twill soon be past. Only what's done for Christ will last. Things of this life soon shall all pass away. But there is coming a judgment day. Some folks may toil for riches or fame, but I'd rather